ta preghiera l'agno e sere de jalus sunge plus carinuire e per mio rei destruire li pre
Oh, ce matin, j'ai croisé ton frère. Il m'a dit que pour lui, ça allait vraiment pas bien. Que sa vie.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des syndicalistes révolutionnaires du secteur commerce pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme. Émission animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens.
Édito du 1er juillet 2024 du Monde Merveilleux du Travail et du premier jour du reste de notre vie libertaire. Notre émission ce soir est consacrée au lycée Autogiré de Paris, mais pas que. L'actualité brûlante nous rattrape, comment ne pas évoquer le score du Rassemblement National au premier tour des élections législatives et le sort que ce bon parti bourgeois autoritaire et libéral réserve à nos progénitures en termes d'enseignement, de liberté individuelle, d'égalité sociale et de suprémacisme blanc, pardon, de fraternité interraciale. Et comme le disent certains imbéciles, malgré tout peu fiers de leurs opinions racistes, mais on n'a jamais essayé. Eh ben si, en 40, les déportés du Veldiv ne sont plus là pour nous le rappeler. Les terroristes de la fiche rouge ne témoigneront plus de leur lutte contre les fascistes, et je fais mise. Quant aux héros de la résistance, tels René Bousquet, homme d'affaires d'influence, ou Maurice Papon, haut fonctionnaire et homme politique français, Ils auront traversé les régimes sans trop de tracas jusque fin 80, fin 90 et montré que la démocratie libérale bourgeoise s'accommode assez bien de l'extrême droite et de ses représentants.
Making up.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, 89.4 MHz, dans le monde merveilleux du travail. Et ce soir, dans une émission consacrée au LAP, en présence de Pascal, qu'on n'a pas présenté.
Salut.
et Déborah.
Salut.
Alors, je ne sais pas quel micro tu as, en fait. Quelle couleur de micro tu as. C'est pas le.
Alors, jaune pour Déborah.
Moi, c'est jaune et Pascal, c'est rouge.
Voilà.
Eh ben, c'est pour ça. Voilà. Tu peux dire bonjour, Pascal, maintenant.
Salut.
Ouais, ben, on n'entend pas mieux.
Pas mieux. Bon, ok. Il va falloir que je crie plus fort.
Ou alors, c'est l'orange.
Ah, c'est peut-être orange, ouais.
Non,
c'est rouge.
Bah, Attends, je peux passer au bleu, si tu veux.
Passe au bleu, parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas.
On va se croire en période sanitaire. Voilà. Tout s'est espacé les
ingrédients. Ah bah, oui, c'est mieux.
C'est mieux. Ok. Bon, bah, parfait.
Donc, Pascal.
Salut.
Prof du LAP, ou ancien.
Ancien, ouais.
Et, suspendu. Et Déborah.
Dégagé.
Oui, prof du LAP aussi.
Parle bien dans le micro, dans le micro jaune.
Oui, prof au LAP, effectivement.
Et voilà, et Eric va faire l'émission.
Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui.
Oui, oui.
Oui, très bien. Bah pour lancer cette émission spéciale LAP, on va partir du haut, du général, de ce qui arrive, ce qui est arrivé hier. Parce que ces élections viennent un petit peu, vont certainement changer les choses au niveau de l'éducation, de l'enseignement, parce que le parti qui arrive en tête des élections législatives a un programme. Eh oui, parce que l'école, c'est important pour formater les soldats de demain. Donc, la chef du parti en question veut une école ouverte sur le monde du travail. Grosso modo, c'est ce qui était écrit dans les Échos. J'ai trouvé que c'était assez bien résumé. Après, on va pouvoir détailler son programme, parce qu'il y a quelques aspects assez croustillants. Alors, elle dit effectivement, pour se démarquer de plus extrême, plus radical qu'elle, qu'il ne s'agit pas de restaurer l'école du 19e siècle, disait-elle, mais de donner à tous nos enfants les bases nécessaires à leur future vie d'adulte. Et en fait, le programme, c'est créer des passerelles entre l'école, mais très vite, et l'usine, le monde du travail, avec la restauration de l'apprentissage à 14 ans. Ça, c'est une bonne mesure, je pense. En attendant peut-être 12 ou 8, je ne sais pas. Et puis, surtout, valoriser la voie professionnelle. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a chassé tous les étrangers qui font les sales boulots merdiques...
Il va falloir trouver quelqu'un. Et
il fallait bien trouver... Voilà, exactement. Et ça va permettre de réserver le chômage. Ah, je vous vois venir. Vous allez critiquer. Mais bon.
Donc... bien sûr qu'on va critiquer. Après, le point là que tu donnes, malheureusement, ce n'est pas le programme uniquement des partis d'extrême droite.
C'est le programme actuel.
L'apanage complet. Que ça soit, effectivement, tu parlais des plus réacs, peut-être que ça soit les macronistes à la sauce Blanquer ou certains sous Sarkozy ou certains, y compris dans ceux étiquetés à gauche, parce que faut faire attention aux étiquettes. Quand on est Hollande, je sais pas si on est tellement socialiste. Enfin, tous ces trucs de l'école et de la formation professionnelle et de se raccrocher au monde de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on nous sert depuis au moins une quarantaine d'années, ouais. Si ce n'est plus. Mmh. Et ce qui correspond à peu près à une période où le Front National n'a cessé, enfin maintenant le Rassemblement National, n'a cessé de monter. C'est-à-dire que quand Radio Libertaire ouvrait ses premiers moments ses ondes, qu'il y avait un Front National qui était dans les 4-5%, on pensait impensable qu'il dépasse un jour les 10%. Voilà. Pendant très longtemps où Mitterrand jouait à faire monter le Front National en espérant en tirer quelques patates du feu, puisque ça allait diviser les électeurs de droite, on disait jamais plus de 15%, c'était un peu les slogans. Et là, effectivement, hier, plus de 30% de personnes qui votent pour le Front National, c'est à la fois parce qu'il y a une politique de diabolisation orchestrée par ceux du Front National, mais c'est aussi parce que toutes ces idées, en fait, sont servies par d'autres partis. Mmh. Et donc, c'est des idées qui ont été largement banalisées depuis une quarantaine d'années. Et là, on a l'exemple de l'éducation, mais on pourrait prendre plein d'autres secteurs où tout ce que défend le Front National en termes de sécurité, d'autoritarisme, alors de préférence nationale, on en reviendra parce que c'était un peu dans l'édito sur les marchés. C'est vrai que maintenant, ils préfèrent des choses un peu plus sexy, plus ouvertes, mais parce que, bien sûr, le plus ouvert, ça veut dire une concurrence sans merci. Donc la préférence nationale est un peu, mais sur tout le reste, c'est des programmes qu'on retrouve vraiment, vraiment partout. Et donc là, ouais, sur l'éducation. L'autoritarisme a été l'apanage de Blanquer depuis 6 ou 7 ans. La connexion avec le monde du travail, je crois que tous les gouvernements en ont eu une version ou une autre. Reprendre pouvoir reprendre l'apprentissage de plus en plus tôt, ça aussi c'est des choses qui ont été proposées par pas mal de partis, quoi.
Et c'était notamment Valérie Pécresse, il y a 10-12 ans, et Macron, il n'y a pas si longtemps que ça, vantait les mérites de l'apprentissage dès la fin du collège, avec une orientation choisie. Donc on est dans effectivement le prolongement de cette idéologie dominante qui est... Alors, très certainement en sous-main, téléguidé par le patronat, par les patrons, de manière générale, puisque c'est...
On va vers la privatisation des services publics,
clairement. De l'école aussi.
Le service public.
L'école en particulier, parce que c'est l'objet de notre... un peu quand même de notre émission de ce soir.
Oui, parce que c'était la question de l'édito, c'est est-ce que le patronat est effrayé de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National? Alors, il y a deux aspects. Il y a premièrement, le patronat est un peu effrayé avec tout ce qui est changement. Il lui préfère continuer d'exploiter tranquillement sans trop de changement. Mais par rapport aux idées et aux programmes que défend le Front National, c'est effectivement tout à fait compatible avec les intérêts du patronat. Et donc là, effectivement, il y a pas du tout de bouclier de la part du côté des riches contre le Front National. Le bouclier, c'est plutôt contre ceux qui défendent les idées qui les combattent, quoi.
C'est vrai que ce qui dérange un petit peu le patronat, c'est vrai que le Front National, je vais l'appeler comme ça, ou le Rassemblement National, mettre vraiment en application son programme de foutre les immigrés dehors.
De remigration.
Parce que c'est pas les étrangers, c'est les étrangers qui ont du fric, ceux-là, ou qui viennent, toi, d'Angleterre, de Finlande, c'est pas grave. C'est les travailleurs immigrés pauvres qu'on va foutre dehors. Je rappelle, c'est bien de préciser quand même.
Pourtant, ils sont utiles dans le BTP.
Pas seulement dans la restauration, partout.
C'est l'humour noir.
Mais c'est pour ça. C'est ça qu'ils ont peur, les patrons, c'est qu'ils appliquent vraiment leur programme, puis qu'ils foutent tout le monde dehors, et puis qu'ils ne trouvent plus personne pour travailler dans la restauration, dans le BTP.
Oui, même, c'est les secteurs souvent cités, mais c'est pas les seuls. Il y a une déclaration tout à l'heure des présidents d'université qui disent que pour la recherche, qui est soi-disant un secteur mis à plus prestigieux. On est absolument contre cette hiérarchie entre les secteurs, mais c'est comme ça dans la société dans laquelle on est. Là aussi, ils disent que ça serait catastrophique de pas avoir des apports de personnes qui viendraient et qui n'auraient pas tout de suite les papiers, quoi. C'est une richesse à travers l'échange. Et donc, dans tous les secteurs, en fait, on trouve des exemples. Effectivement, ça, c'est le point d'achoppement. Mais c'est possible aussi que le Rassemblement National fasse le tri entre ceux qui sont là et qui ont un intérêt économique et ceux qui ne l'ont pas, quoi. C'est clairement annoncé.
Ah oui, de toute façon, le Rassemblement National ne fait pas le ménage qu'il annonce. Ça, c'est une annonce électoraliste. C'est pour faut se faire élire quand même à un moment donné pour un système démocratique bourgeois. On se fait élire et puis on accède au pouvoir. Donc après, il en sera autrement, parce que les patrons ont besoin de main-d'œuvre. Donc, ils vont dire, attendez, hey, les gars, nous, on veut bosser, donc tu nous laisses tranquille. Moi, j'ai besoin de main-d'œuvre. T'es pas trop regardant sur le droit du travail, mais tu me laisses mes Africains subsahariens, tu me laisses mes... Et puis, il y a peut-être un petit peu d'angoisse du côté des grands patrons, des grandes entreprises. Parce que si on maîtrise les flux financiers, si on veut regarder les flux financiers, bon, ils vont peut-être dire, ben non, ça va pas. Mais bon, très rapidement, le Rassemblement National va laisser les patrons faire ce qu'ils ont envie de faire.
Et surtout que, surtout ce qui, et le patronat a tout intérêt à ce que l'immigration perdure et puis qu'il y ait des vagues qui se renouvellent. Qui se, tu vois, et qui viennent pas forcément des mêmes pays. J'ai des collègues, donc je suis dans du commerce, hein, pour ceux qui écoutent tes émissions, qui n'auraient pas encore compris. On est dans la distribution, le commerce. Mais il y a aussi beaucoup de collègues travaillent, alors ils sont à 35 heures, mais ils travaillent aussi à temps partiel dans la restauration. Donc ça, il faut plus de 35 heures, hein. Ils arrivent, ils ont les yeux tout rouges. c'est des zombies, mais bon, c'est pas grave. C'est grave, mais ils le choisissent quelque part. Certains le choisissent. Tout le monde l'accepte difficilement, mais il y en a qui le choisissent. Un certain temps. Mais ça permet, une première vague va commencer à remplacer ceux qui sont avant, tu vois, parce qu'ils vont accepter de faire des boulots un petit peu moins chers. Mais le problème, c'est que les vagues d'après, donc 5, 6 ans après, les mecs, ils vont arriver d'un autre patelin, et ils vont accepter de faire le boulot aussi moins cher. Donc
patron. C'est pas nouveau, ça.
C'est pas nouveau, mais je veux dire, le patronat, il est assez satisfait, parce qu'en fin de compte, soit ils font le boulot moins cher, ou soit ils acceptent plus de charges de travail au même tarot. Donc.
Ça revient même.
Voilà. Le patron, il est assez satisfait, dans le fond. Hein. Et les salariés, ceux qui ont pris la place des précédents et qui se font bouffer aujourd'hui, viennent le comprendre, mais il est trop tard. Donc oui, l'immigration, c'est pas une, ça va être utile. Le patronat, même d'ailleurs, je pense, le souhaite, parce que ça permet de tirer les salaires vers le bas. C'est important, ça aussi. Il n'y a pas que l'exploitation. Ouais. Donc, bon, surtout, je voulais juste... c'est du vécu.
Après, c'est pas pour parler du patronat, mais il y a quelques semaines, j'ai lu un papier en diagonale concernant un hôpital psychiatrique du sud de la France, qui était déjà en très très mauvaise santé, comme la plupart de ces institutions, où c'était un psychiatre français qui travaillait depuis plusieurs années avec d'autres psychiatres tunisiens. Et là, depuis quelques temps, il y en a pas mal qui sont renvoyés dans leur pays d'origine. Comment on appelle ça déjà, Pascal, quand t'es couvert, c'est OQTF.
OQTF, quand l'obligation de quitter le territoire
c'est
français.
C'est ça. Et ben là, cet endroit-là, qui était un des rares endroits du prendre soin psy, et ben les deux médecins tunisiens avec qui ils travaillaient depuis des années, ben voilà, OQTF, tu retournes dans ton pays. Enfin, il y a aussi des choix où on dit aux gens de partir en fonction des métiers qu'ils font, quoi. Ça me fait bien peur aussi. Mmh.
Parce que les deux vont exister, effectivement.
Parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre en France, parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées, que les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Du coup, on va chercher de la main-d'œuvre chez les voisins. Et là, les voisins qui sont là depuis pas mal d'années, ils sont remerciés.
Oui, mais tu sais, il n'y a plus besoin de personnel, puisqu'il y aura bientôt
c'est
plus
terminé,
personne dans les
dans
HP.
La rue, mais je sais.
Dans les HP. Ils vont prendre le pouvoir, donc ils ne sont plus dans les HP.
C'est une vraie catastrophe, quand même. Enfin, c'est un exemple pour dire comment on gère le truc et ça va pas aller en s'arrangeant. Quoi.
La situation en politique est une vraie catastrophe, et effectivement, là c'est un point de bascule, mais d'une chose qui découle d'une situation sociale, parce que c'est vrai que ça fait là aussi des dizaines d'années que les inégalités ont augmenté, que les personnes, la misère des plus pauvres est de plus en plus criante. Et ce qui explique aussi une partie du dégagisme anti-Macron, de tous ceux qui ont mené des politiques sauvages, enfin de débrider d'un point de vue économique, et donc une volonté de les contrer. Alors on se trompe complètement de combat quand on pense que c'est le Front National qui va contrer ça, parce qu'évidemment c'est une continuité. La seule chose, c'est de trouver des boucs émissaires. Mais c'est aussi le point de bascule d'une société qui devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus fliquée et de plus en plus violente. C'est-à-dire que là aussi, on se trompe complètement de réponse en pensant que rajouter de la police, rajouter des personnes qui se font expulser, dégager tous ceux qui sont pas, qui sont pointés comme étant différents, va permettre d'améliorer la situation. Au contraire, ça crispe encore plus les choses. Et donc, effectivement, c'est assez catastrophique. Et on a un enjeu très très fort pour tous ceux qui portent des valeurs différentes, parce que c'est, on n'a jamais été aussi peu, autant en minorité que. Qu'on l'a actuellement. Et donc, il y a vraiment un enjeu fort à continuer de nous battre pour montrer que ce qu'on défend comme projet politique, eh ben, est là, pour le coup, une vraie solution à la situation dans laquelle on est, quoi.
Encore faut-il pouvoir être écouté.
Oui.
Pourrait rentrer dans l'éducation.
Ben, en parlant d'éducation, une des mesures du programme du Rassemblement National, c'est de mettre un terme à l'éducation prioritaire et au comment dire, à la discrimination positive. Alors, vous qui êtes des spécialistes, des professionnels, qu'est-ce que ça augure? Alors, mettre un terme à la discrimination positive,
déjà, je
et arrêter de bannir l'éducation prioritaire.
Alors déjà, le terme spécialiste, on pourra en reparler, mais, ou l'autorité a parlé de quelque chose. Après, il y a un premier élément, c'est que évidemment le côté effet d'annonce, c'est-à-dire que quand le Front National dit on va mettre un terme à l'éducation prioritaire, c'est un peu comme quand Zemmour dit on va raser à Molenbeek, ou enfin c'est les quartiers populaires qui sont visés. Hein. Oui. C'est les quartiers populaires et derrière les Maghrébins. Enfin, c'est une image d'Épinal dans la tête de l'électeur ou de l'électrice Rassemblement National. On va s'attaquer au quartier populaire et tout ce que ça contient de Maghrébins, de Sénégalais, voilà. Après, sur la mesure en elle-même, évidemment, nous, on est pour une école qui soit la même pour tous et qui permette à chacun de s'épanouir suivant son parcours. Malheureusement, l'école dans laquelle on vit, elle est liée au territoire. Et les territoires sont faits de flagrantes inégalités. Et donc, dans tous les quartiers, l'école n'est pas la même. Hein. C'est, il y a qu'à voir comment des personnes font des dérogations pour avoir une adresse dans tel ou tel endroit, pour être inscrit dans telle ou telle école réputée plus prestigieuse. Enfin, tout ça, c'est évidemment toute la politique de la ville, toute la politique des quartiers. Donc, par rapport à cette inégalité de territoire, l'éducation prioritaire joue un rôle. Et joue un rôle de personnes qui s'investissent, qui promeuvent des expériences parfois intéressantes dans les quartiers, qui permettent aussi d'avoir des moyens. Alors évidemment, on pourrait dire que là aussi, on pourrait mettre les moyens partout. Et enfin, il y a une vraie catastrophe. Et là aussi, c'est une des conséquences qu'on paye avec les scores complètement délirants d'hier. L'école, comme la santé, on a cherché à tout rentabiliser. Et donc, l'école, ça fait des dizaines d'années que les jeunes sont entassés à plus de 35 par classe au collège, au lycée, et qu'on leur dit, bah, démerdez-vous, les plus débrouillards réussiront. Ça a atteint un paroxysme avec des sélections complètement, des sélections par algorithme, avec Parcoursup. Enfin, je sais pas comment on a pu accepter une telle horreur. Mais donc, oui, l'école à 35 personnes par classe, c'est quelque chose qui ne réussit qu'à ceux qui, de toute façon, auraient réussi et pour qui l'école n'apporte pas... l'éducation peut se faire ailleurs. Et donc, le seul intérêt pour eux de l'école, c'est de passer à travers la sélection. Donc, l'éducation prioritaire... peut avoir un intérêt. Il faudrait, en fait, il faudrait tout repenser. Mais là, on voit bien ce qui est visé par le Front National à travers la fin de l'éducation prioritaire. C'est évidemment pas une école égalitaire pour tous avec plein de moyens. C'est vraiment un effet d'annonce.
Alors, le Front National, toujours en mode je chamboule tout, continue ce que tous les régimes précédents. Conservateurs avaient mis en place et poussé peu ou prou. Donc, il insiste sur l'efficacité des méthodes pédagogiques. On ne sait pas trop lesquelles. Ça, c'est une énigme. Et il s'attaque, je cite, aux dérives pédagogistes derrière lesquelles il y a l'interdisciplinarité et des dispositifs où l'élève, je cite, est acteur de sa formation avec des trucs auxquels personne ne comprend rien. Voilà. Et puis, bien sûr, cette idéologie de gauche qui règne en maître dans les INSPE, donc les instituts de formation des profs. Donc forcément, si c'est une idéologie de gauche, bon, on va certainement mettre un terme. De gauche, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs de gauche. Hein.
Bah, là, c'est clairement ciblé. Ils disent trois fois la même chose. Il faut attaquer à boulet rouge tous les courants pédagogiques issus de la deuxième partie du XXe siècle, mais quand même des origines antérieures, et qui sont de la part des militants du Front National, mais pas que, hein, parce qu'on peut retrouver dans pas mal de formations politiques cette attaque forte. Et quand on parlera un petit peu du lycée autogéré, des attaques contre le lycée autogéré tout à l'heure, on verra que c'est pas que le Front National qui porte ces attaques. C'est clairement trois fois la même chose, c'est en finir avec la pédagogie coopérative, en finir avec tout ce qui peut être rattaché avec une pédagogie qui s'inscrit dans une dimension sociale et politique. Et donc, c'est clairement des clins d'œil à tous ceux qui voilà, rejettent le gauchisme et tout ce qui est coopératif, émancipateur. Quand tu as lu les trois phrases, ils sont de plus en plus clairs sur la manière dont ils attaquent toutes ces choses-là. Alors que la première phrase où ils disent qu'ils s'intéressent à la pédagogie, et quand on la relie à la deuxième sur l'interdisciplinarité, toutes les études en termes de pédagogie et montrent qu'il n'y a pas... On ne peut pas simplement rejeter comme ça en bloc l'interdisciplinarité, que c'est un truc complètement aberrant.
Sachant que c'était déjà pas très très bien mis en place. C'est-à-dire que sur le papier, c'était une volonté de la part du ministère depuis longtemps. Mais quand on regarde les réalités sur le terrain, dans la plupart des établissements, assez difficile de mettre en place des vraies interdisciplinarités, parce qu'il faut que les profs soient disponibles, ça veut dire que c'est beaucoup de profs pour peu d'élèves. C'est pareil, c'est la gestion du nombre, c'est la gestion du chiffre. Et oui, on peut observer qu'ils n'aiment pas du tout ce qui est de l'ordre dès que c'est collégial, dès qu'on mutualise les connaissances. C'est pas bon.
Oui, parce qu'on travaille ensemble, donc ils travaillent ensemble, ça veut dire on réfléchit ensemble aussi.
L'école, elle a toujours été de l'ordre de... oui, c'est la notation, c'est celui qui est le meilleur, la meilleure. C'est rare que ça fonctionne ensemble.
Alors, et puis parce que le modèle politique des courants autoritaires et encore plus de l'extrême droite et des fascistes, c'est le modèle complètement pyramidal avec un chef, un fureur, un dictateur en haut de la pyramide et qui va guider les foules. Enfin, c'est complètement contraire avec la coopération.
Vous parlez de moi, là?
Exactement, Fabrice.
Non, mais c'est ça. Et puis, ça fait pyramidal, c'est qu'il y a le prof qui est tout seul dans sa classe, qui est le petit chef, et qui règne sur sa classe. Et c'est un endroit... Parce qu'il souhaite retrouver ce modèle où le maître est le maître. Il n'y a pas d'échange entre les maîtres, si ce n'est... ils sont aussi en concurrence, hein, et... l'école que j'ai connue quand j'étais enfant, c'était un peu ça, c'est que il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre les maîtres, chacun se jaugeait, et il n'y avait pas de maître qui entrait dans la classe sans y être invité. Non, mais c'est assez terrible.
Pas beaucoup changé dmh. Dans certains endroits. Hein. Oui. Et dans certains endroits, je ne parle pas d'une toute petite minorité, c'est pas mal d'établissements, d'écoles où ça reste comme ça. Et
à l'échelle de la société, quoi. Enfin, à l'image de la société.
Ouais. Donc là, en abordant les différentes thématiques du Rassemblement National sur l'école, on voit bien que ça intéresse les patrons. Alors, les petits patrons, hein, surtout. Moi, j'étais assez surpris. On en discutait avec Fabrice en préambule tout à l'heure. Dans l'Ouest, je ne sais peut-être pas avec toi aussi. Dans l'Ouest français, habituellement, c'est assez conservateur, hein, l'Ouest atlantique. Hein, c'est assez conservateur.
Oui, parce que peut-être en Bretagne. Catholique.
Et, oui, Mais c'est conservateur modéré, c'est-à-dire que voilà, on tient ces bijoux de famille, tout ça, mais bon, on n'est pas non plus dans l'extrême radicalité. Et là, le Rassemblement national a fait des scores assez hallucinants.
Oui, alors que c'était toute la Bretagne, je pense qu'elle avait des scores en dessous de 8% depuis.
Et là, c'est tout l'arc atlantique, en fait, on s'aperçoit que il y a le phénomène des petits patrons qui, derrière, ont poussé, parce que les petits patrons, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, puis se taper la crémière. Quoi. Et c'est de plus en plus. C'est vraiment de la réaction. Et puis en même temps, il y a cette. Il y a province contre Paris. Non, mais ça joue aussi. Hein.
Grande ville.
Oui, grande ville, c'est ça.
Parce que c'est pas que Paris le phénomène. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un territoire entier tel que la Bretagne, où il y avait un rejet pour plein de raisons, même y compris certaines des raisons avec lesquelles on serait peut-être pas forcément d'accord, qui est surtout le côté conservateur. Il y avait une forme de barrière contre le Front National ou le Rassemblement National après, n'existe plus. Il n'y a plus tellement de territoire. Alors, il y a des coins. On a tous regardé les cartes depuis hier soir, un petit peu, complètement effaré par cette emprise de l'extrême droite. Mais c'est vrai que quasiment partout en Bretagne, il y a des scores. Alors, on n'est pas dans les 60% qu'il peut y avoir dans le bassin minier ou dans le nord de la France. Mais quand même, on a le Front National à près de 30% du côté de Brest, du côté de... même
ville ouvrière, en plus.
Alors, pas Morlaix, tout à fait, mais un peu plus à l'est, qui était quand même des coins ouvriers aussi. Voilà. Je crois qu'il y a, parce que j'avais regardé, on a nos camarades à Saint-Nazaire, ils s'en sortent un tout petit peu mieux parce que le Rassemblement National n'arrive pas en tête. Mais quand même, le Rassemblement National est aussi à plus de 20%. Donc, effectivement, c'est à part les grandes villes, parce que tout le monde a vu l'Est parisien, d'autres grandes villes où il y a des scores complètement en relativisant faible du Rassemblement National, puisqu'il est né que à 10%, ou à 8, ou même des fois à 7 dans certains coins, et avec des élections au premier tour des opposants Front Populaire. Dans le reste, dans tout ce qui n'est pas grande ville, et particulièrement dans les coins ouvriers, il y a le Rassemblement National qui fait des scores complètement délirants, et ça c'est vrai que c'est aussi lié à l'abandon des partis politiques et même ceux qui se disaient de gauche ont mené des politiques qui absolument pas des politiques sociales, donc à un moment ça se paie.
Petite pause musicale, chef.
Ich bin nichts wert, denn ich arbeite nix. Ich arbeite nix, denn ich bin nichts wert. Ich bin nichts wert, denn ich arbeite nix. Ich arbeite nix, denn ich bin nichts wert.
Ich bin nicht wert.
Vous venez d'entendre Park Punk, un groupe allemand qui nous interprétait Arbeitenix. Et ben nous non plus, on veut pas travailler.
Et un petit peu en colère, ça tombe bien.
Voilà. Donc, vous êtes bien, c'est... Toujours sur Radio Liberté à 89.4 MHz, à l'écoute du monde merveilleux du travail. Donc, on reprend avec Eric à l'animation, Déborah, qu'on entend assez peu,
oui,
mais c'est toujours ce qu'il faut. Et Pascal, bah, lui, tant qu'il y a une pile, ça roule.
C'est le retour des évaluations par Fabrice. Voilà, c'est très bien. Enfin, on est à l'école.
Autre thème du programme pédagogique, éducatif, je sais pas quoi, du Rassemblement National, c'est restaurer l'autorité du maître.
Oh, super.
Hein?
On est content.
Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? On restaure l'autorité du maître. Ça, ça fait peur hein, quand je dis ça. Guédi a peur là-bas dans son bocal. Petit bonhomme.
C'est en même temps qu'ils disent on va aller vers des trucs de l'avant et tout ça, mais là oui, on retourne clairement au 19e siècle ou au début du 20e siècle.
À quoi, excuse-moi, je t'interromps, à quoi on ajoute le port de l'uniforme, voilà, dans le primaire et au collège.
Bah, et le châtiment corporel.
Non, ça, tu l'inventes.
Oui. Mais s'ils peuvent récupérer l'idée, si jamais.
Bon, si il y a l'autorité du maître qui est pleine et entière, et qu'on est habitué à avoir une police qui, dès qu'elle tape, de toute façon, c'est la présomption d'autodéfense, de culpabilité pour celui qui est en face. on peut imaginer que les châtiments corporels, ils sont pas loin derrière, et que, de toute façon, ça sera une façon d'exprimer que l'autorité, c'est importante. Ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une société complètement autoritaire et complètement policière. C'est clairement le programme du Rassemblement National. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pente qui est aussi employée par d'autres. C'est-à-dire que face à tous les défis, face à tous les problèmes et à la crise que traverse la société et au premier plan l'école, penser que les solutions passéistes d'un prof complètement autoritaire, avec une autorité inébranlable, et que de toute façon c'est toujours lui qui a raison, et que les élèves apprennent la vie en apprenant à se soumettre à cette autorité, et que c'est ça qui va nous donner une société qui fonctionne mieux, bah c'est du à la fois du pur fantasme et à la fois le signe d'une société qui n'est pas capable d'apporter beaucoup de solutions parce qu'elle est, comme je le disais, été massacrée par plein d'autres choses. Mais enfin, c'est effrayant hein, de penser vraiment que cette place parmi toutes les personnes qui défendent l'autorité comme étant une solution et l'autoritarisme.
Mmh. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en fait, on avait déjà connu ça, des prémices, hein, et puis même des choses assez marquées par les régimes, enfin les régimes, les gouvernements précédents. Souvenez-vous de ces collégiens ou lycéens qui avaient été mis à genoux, les mains derrière la tête par la Gestapo.
T'anticipes un peu, là,
joli. Si c'était pas la Gestapo, enfin, ça avait facilement fait penser au Chili,
ouais,
Argentine.
Jusqu'à ce qu'ils se filment eux-mêmes, en plus. Enfin, ça, c'était d'une violence.
Oui, en déconnant. Ça a donné le titre du film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, puisque c'est les flics qui faisaient de l'autodérision sur... C'est une classe qui se tient sage.
C'est les effets Guantanamo, ça.
Ouais. Mais donc, effectivement, là, on pourrait penser qu'on était dans le cas d'une dérive policière. Enfin, c'est un pléonasme. Mais oui, l'autorité, ça a été mis en avant par Sarkozy très fortement au moment de son arrivée au pouvoir. Donc ça, c'était vraiment le retour de l'autorité à l'école. Mais là aussi, on parlait de l'uniforme. C'est quelque chose qui... alors, pas exactement pour les mêmes raisons, parce que là, c'est vraiment l'uniforme en tant qu'objet et symbole de soumission à cette autorité et à l'institution militaire. Mais l'uniforme, il a été défendu par des personnes qui se disaient proches de nous. Nous, on pense qu'on n'est pas du tout proche d'elles, en termes de vecteur d'égalité. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé dans pas mal de même chez des personnes qui se disent, avec une réflexion sociale et politique, qui défendaient l'uniforme. Donc il y a vraiment quelque chose de la place et de l'image collective de l'autorité qui est questionnante. Quoi. Mmh.
Autre sujet qui est mis en exergue par le programme du Rassemblement National et sa présidente ou sa chef, non, sa chef dans l'Assemblée, chef, là, ouais. Comment ça s'appelle, la chef dans l'Assemblée, la chef du groupe dans l'Assemblée.
Celle qui a été réélue, là.
Voilà. elle dit qu'en fait, je cite, il y aura des choses qui coûteront moins cher. Dans l'éducation, il va falloir couper et dégraisser des milliers de postes dans le ministère et les rectorats et remettre beaucoup de professeurs devant les élèves. Ah, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça paraît bien.
Bah, c'est tout le côté, nous on va faire le nettoyage.
Ça plaît énormément, ça. Petit français moyen, bref. Voilà.
Ah oui, c'est dans la réalité, il manque beaucoup
de profs. Ces profs sont des feignants, hein, qui ne font rien, qui ont des pleins de vacances, qui en plus, ils ne sont pas foutus de s'occuper de nos gosses.
Non, mais là, il y a une partie, effectivement, sur le et ce qui rejoint le contraste entre Paris et les grandes villes et les autres territoires, c'est d'avoir l'impression, et plus que l'impression à juste titre, qu'il y a des personnes qui sont grassement payées pour décider à la place des autres et dont l'efficacité est assez questionnante. Mmh. Voilà. Donc, il y a une pointe de ça, c'est-à-dire que on va aller virer tous ceux qu'on paye grassement dans les ministères pour et ce populisme, évidemment, c'est un des éléments de la matrice du Rassemblement National de faire dans la démagogie. Et c'est pas la partie avec laquelle on est en désaccord, c'est-à-dire que parce que ça questionne à la fois l'inégalité des salaires et à la fois le fait qu'il y a des gens qui décident dans les hautes sphères parisiennes en étant déconnectés de la réalité du terrain. Mais après, là où il y a une rupture par rapport à tout ce qu'on défend, c'est d'en faire un populisme complet et de dire que ça y est, on va remettre tout le monde au boulot. Et de faire croire qu'effectivement les profs sont des feignants. Enfin, il y a tout un langage qui est propre au Rassemblement National et qui ratisse large, bien sûr. Hein. Et effectivement, dans la question par rapport à la question sociale et la question des répartitions des salaires. Et ce qui est aussi apparu dans les gilets jaunes, il y a un très net contraste entre celui qui va être payé à travailler dans un ministère et celui qui va galérer en lointaine banlieue ou plus loin qu'en lointaine banlieue. Donc là aussi, le terreau, il est clairement en place, quoi.
En fait, c'est des solutions simples et des problèmes complexes, mais ça, c'est une vieille...
Pas de raison de ne pas réutiliser des recettes qui fonctionnent. Quand on peut profiter de la misère pour arriver au pouvoir, eh ben, allons-y à fond, et c'est exactement ce qu'est en train de faire le Rassemblement National. Et
donc, la chef en question propose aussi d'allonger la journée de classe. J'ai pas bien compris, mais si, on va passer de 24 peut-être à 28 heures.
Dans une journée.
Dans une journée.
la semaine, tu veux. Non, la semaine. Là, c'est vraiment révolutionnaire. La journée va faire 28 heures. On va ralentir.
Non, mais voilà, il propose d'augmenter la journée de travail.
Ah oui,
8 heures, comme à l'usine. En fait, il faut les préparer.
Mais c'est ça, mais après, c'est pas nouveau non plus.
Non, travail, famille, patrie, il y a travail.
Ouais.
Il faut mettre en avant le travail.
La et notion, donc, ça, comme... oui. Notion d'éducation nationale, très nationale, très patriote. Ah bah. Là aussi, c'est
apprendre l'histoire de France.
Ben oui. Pas n'importe quelle histoire de France.
Voilà, c'est le fantasmé, le mythe de Charles Martel, tous les grands mythes.
C'est Jacques Bainville. Ils ont déjà des trucs, hein.
Ouais. Il y a les manuels. Ils ont fait les solderies et puis ils ont récupéré des vieux manuels.
Ouais, à l'époque des colonies aussi. Ça va revenir.
Alors après, c'est une un vrai délire, parce que enfin, c'est pas complètement exclu, malheureusement, qu'ils arrivent au pouvoir. Comment un tel programme est possible et comment ça va se passer? Qu'est-ce que tous ceux qui sont profs, est-ce qu'il va y avoir des démissions en masse? C'est une vraie question.
Je ne pense pas, parce que cette dame parle de revaloriser les salaires des enseignants de 3% par an. Ne fuyez pas. Bon, on va remettre un peu d'ordre, mais en même temps, on va vous donner de l'argent.
Là, tout va bien. Tout va bien. 3% par an.
Déborah, elle n'en peut plus. Elle est au bout de sa vie.
Ça rattrapera au bout de quelques années les 20% qui ont été perdus depuis le gel du point d'indice. C'est merveilleux.
J'ai jamais eu d'augmentation en 15 ans.
Tu vois, tous les ans.
Il y a des solutions faciles.
Voilà. Et 3%.
Ah, je préfère ne pas être augmenté.
À peine la moitié de l'inflation réelle. D'autres propositions que tu suis cocasse, moi j'ai relevé, c'est mathématiques pour tous. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire.
Avant, c'était pas mathématiques. Dans les années 80, c'était informatique pour tous. C'est énigmatique.
Non,
c'est pas parce qu'à un moment c'était devenu facultatif, les maths.
Alors, pour des raisons économiques, au lycée, les mathématiques ont été enlevées du tronc commun.
Ben c'est ça.
Voilà. Mais ont été remis après. Parce qu'il y a des grandes études internationales qui comparent les systèmes éducatifs. Et le système français étant toujours un des pires en termes d'inégalité, voilà, au niveau européen et occidental, on s'est aperçu que la culture mathématique pour un grand nombre était vraiment catastrophique et posait problème, notamment à ceux qui allaient enseigner à l'école primaire, c'est-à-dire ne pas du tout avoir cette culture mathématique. Et donc ils ont dit oula, et pour plein d'autres raisons. Donc ils ont remis, mais le truc de départ d'arrêter les maths dans le tronc commun, c'était tout simplement parce que ils n'avaient plus de profs de maths. Ils n'avaient pas en recruter. Mais ouais, enfin donc dans ce programme maths pour tous, il y a quelques la démagogie.
T'es un oiseau rare, alors, Pascal.
Ça, on le savait déjà. Et puis, peut-être pour d'autres raisons.
Une proposition de retourner aux séries anciennes. Ah. Là, c'est pareil, je pense que c'était A, B, C, D.
Avant ça, il y avait L, S.
Non, ABCD, c'est antérieur.
C'est les années 90.
Oui, mais là, ça n'existe déjà plus. L, S, E, S, tout ça.
Oui, mais tant qu'on peut faire un peu côté vieille France, faut revenir au même bac que celui du maréchal.
Oui.
C'est pris pour De Gaulle.
Alors, effectivement, il y a plein de choses la démagogie, du populisme, du c'était mieux avant, un truc qui est vraiment puant. Et pour autant, la critique du bac actuel, elle est tout à fait légitime. C'est-à-dire que le fait d'avoir supprimé des filières pour avoir instauré un bac avec un choix de spécialité, c'est quelque chose, évidemment, par les macronistes, qui a été présenté comme un gain de liberté, un système éducatif qui allait s'adapter aux intérêts de l'enfant et à ce qu'il a envie d'étudier, donc que ça allait offrir une école beaucoup plus diversifiée avec vraiment plus de choses. La réalité, tout le monde l'a très 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 vite compris, c'est que au contraire, ça a aggravé la sélection. C'est-à-dire que le fait d'être tous dans une même filière, alors il y avait déjà de la sélection et une hiérarchie entre les filières, hein. Tout le monde avait bien compris à l'époque du bac S, mais encore plus avant à l'époque du bac C, revenir dans le programme de ce côté vieille France, que le bac C, c'était le sésame à tout. Mais allons de l'autre côté, avec ceux qui passaient un bac littéraire, qui était parmi les bacs généraux un des seuls les moins valorisés, au moins tout le monde avait le même bac L. Et ça crée une possibilité de défense collective et de statut collectif, d'autant plus qu'à l'époque, le bac était une porte d'entrée vers les études supérieures, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis que Savary, pour revenir dans les vieilles... Ah non, c'est pas Savary. c'est pas Savary, c'est De Vaquet, c'est juste après, c'est la première cohabitation. Que De Vaquet avait... essayé de massacrer l'entrée à l'université en 86, ça a été fait en 2018 par Macron. Et donc effectivement, la critique du bac actuel est largement... Mais donc, c'est absolument pas une solution de revenir à ce côté vieille France et au bac des filières A, B et C, et toutes les inégalités et qui comportaient déjà, en fait.
Donc, de mauvaises réponses, de bonnes questions, en quelque sorte. De toute façon, toutes ces problématiques existaient avant.
Et des fois, de mauvaises questions aussi.
Oui.
Des fois aussi, mais bon, questions. Bien sûr, là, il y a des mauvaises
impôts. Reste à savoir ce qu'il en sera dans la réalité, après, de programmatique, une fois qu'on aura passé cette réalité plutôt élective ou électoraliste, plutôt.
Hein. Après, il faudrait voir ce qu'il propose au niveau de l'armée. Parce que là, on parle de l'école, mais... Il n'y a rien là-dessus.
À 12 ans, tu revêts ton uniforme. Tu vas à l'école un petit peu. Deux ans, ça suffit. Ensuite, tu pars en apprentissage avec ton bleu de chauffe. Jusqu'à 16 ans. À 16 ans, tu intègres l'armée. Voilà, ça c'est
le rêve.
Ça c'est le rêve. Voilà, nous l'avons rêvé, ils vont le faire.
Et à 20 ans, t'es mort.
Et à 20 ans,
c'est ça.
Alors, plus on règle le problème de la retraite.
Franchement, c'est simple. Ouais. Les solutions simples.
De la retraite et de la sécu. T'as pas le temps d'être malade. Ouais, ouais, franchement, faut pas déconner non plus.
Une balle pour aller battre en Ukraine à côté de Poutine. Et voilà, c'est réglé.
Donc, on est sur... est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des passerelles entre... ce qu'on a passé un peu en revue de manière assez générale, et la situation du LAP, qui est la deuxième partie de notre émission. Est-ce qu'on peut tisser des petites passerelles?
La passerelle, c'est déjà l'état social dans lequel on est, et l'état des politiques qui s'opposent au niveau national, là, puisque... Enfin bon, même ailleurs en Europe, quand on a regardé il y a quelques semaines les résultats des élections européennes, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'était pas joyeux non plus, quoi. Si on enlève quelques exceptions de pays nordiques où c'était un petit peu préservé, le retour des politiques dures, totalitaires et ou très très autoritaires et de replis nationaux est quand même très très fort. Donc les petites passerelles, c'est une logique dans ces politiques qui à la fois promeuvent plus d'autorité et décident d'en finir avec tout ce qui a pu se passer de progressiste, c'est-à-dire quand même pas tant de choses que ça, mais il y en a eu quelques-unes, autour des années 70, 80, parce que le reste, avant, ils considèrent qu'ils l'ont déjà soldé. Et donc, c'est vraiment de passer un grand, grand coup de balai là-dessus. C'était présent dans les éléments du programme que tu as lu. Et c'était très clairement présent dans les différentes positions qu'a eu le rectorat vis-à-vis du lycée autogéré de Paris depuis deux ans, où il fallait avant tout, et on le comprend de plus en plus clairement, on l'avait déjà dit lors des précédentes émissions, il fallait rayer à grands coups de marqueur rouge le mot autogestion. C'était plus possible de tolérer un endroit qui soit autogéré dans le système éducatif français. Donc voilà, il y a une cohérence.
Et encore plus au 393 rue de Vaugirard.
Ah oui, mais je pense qu'il en avait dit en témoignage, il ne l'aurait pas voulu. Mais effectivement, avec ce lieu chargé d'histoire, il fallait d'autant plus le rayer du côté du 393 rue de Vaugirard, qui est l'adresse, ou qui était, je ne sais pas exactement où on en est sur les termes de situation et de moment historique, qui était l'adresse du lycée autogéré de Paris. Donc oui, il y avait... Quelque part, il y a des personnes, mais enfin, de toute façon, Guerrero, qui était l'ancien recteur de l'Académie de Paris, qui a démissionné en février dernier, était un recteur, ça n'a pas été le seul, mais qui était très 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 proche des milieux conservateurs et des milieux d'extrême droite au sein des sphères éducatives. Donc,
un peu, qu'il n'a pas été au bout quand même.
Ah ben, il a pris un petit coup d'orgueil sur... Mais il a quand même fait tout à fait ce qu'il fallait sur...
Mais il n'a pas assumé jusqu'au bout quand même, parce qu'il s'est barré.
C'est ça. Il a été désavoué par la ministre, et ça, sur son projet de classe préparatoire. Puisque là aussi, des visions d'école élitiste. Alors avec des trucs, des questions sociales, mais en tout cas, bon, ça n'enlève rien à son côté autoritaire et très, très proche des fachos. Donc oui. Et puis Blanquer, avant au ministère, a porté aussi une vision très, très autoritaire, et à tel point qu'il y avait même, il y a quelques années, je ne sais plus, c'est 2021 ou 2022, je n'ai plus l'année exacte, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui avaient écrit une lettre ouverte sous couvert d'anonymat où ils dénonçaient vraiment l'emprise ultra-autoritaire qu'avait Blanquer sur eux, et c'est-à-dire qu'il disait toutes les instances d'échange, alors je ne sais pas si on parle de démocratie, mais enfin toutes les instances institutionnelles de consultation au sein de l'éducation avaient été complètement bridées, balayées en quelques années par le macronisme. Et là, c'est des hauts responsables qui a priori n'étaient pas des grands révolutionnaires, puisque quand on arrive à ce poste, c'est qu'on se satisfait assez bien du fonctionnement du système. Mais là, ils trouvaient que déjà avec Blanquer, ça allait quand même beaucoup trop loin, et que même eux n'étaient plus consultés, quoi. Donc oui, un fonctionnement ultra pyramidal dans l'éducation nationale, ça existe depuis des décennies, mais ça s'est clairement accentué avec Blanquer.
Blanquer avait été recteur avant d'accéder au...
Oui, il avait été recteur en Seine-Saint-Denis.
Donc, il connaissait parfaitement les rouages
il connaissait bien.
De l'administration, à la fois académique et centrale.
Tout à fait.
Puisque pour bien éduquer le... Vissé système.
Ouais, et c'est celui qui est resté le plus longtemps en activité et en sévice.
C'est donc, lui qui a voulu faire l'école à la maison.
C'est lui qui a mis fin, oui, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est un peu alternatif a été largement balayé.
Il n'y a pas des. Alors, ce qui caractérisait aussi le LAP, c'est qu'il y avait une entrée des. Les élèves s'inscrivaient, il n'y avait pas de sélection à l'entrée du...
Alors, il y avait une sélection dans la mesure où il y avait plus de demandes que de places.
Ah oui,
alors que, ça... Mais ce n'est pas la sélection sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on a les élèves
qui... Au résultat scolaire.
Ouais. Non, ce n'est pas par rapport à ça, non.
Malheureusement, il y avait, pour les élèves qui venaient, beaucoup de demandes, parce que voilà, beaucoup d'élèves en souffrance dans l'école, qui est le projet de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, la députée dont tu parlais tout à l'heure. Beaucoup d'élèves qui souffraient dans cette école à petite dose, et donc imaginons à grande dose, et qui avaient besoin de réponse d'une école qui fonctionne autrement, de manière plus humaine. Et donc, oui, beaucoup venaient au LAP jusqu'à certaines années 400, avec une possibilité d'en accueillir que 100, 120 au maximum. Le 400, c'est vraiment un maximum. Hein, c'est au milieu des années 2000, ces derniers temps, et notamment avec la réforme du lycée, ça avait un peu baissé. Avec la réforme du baccalauréat. Mais il y avait quand même une forme de sélection, mais sur la base de discussions sur est-ce que ça t'intéresse de fonctionner de manière collective, est-ce que le fait de reprendre des études générales, c'est ce qui est le plus adapté pour toi. Voilà, c'était plus ce genre de questions. Et puis aussi le fait de venir vivre des choses.
On peut aussi dire que sur les quelques dernières réformes qu'il y a eu dans le champ de l'éducation nationale, la spécificité pédagogique du lycée a perdu des libertés, justement. Parce que beaucoup de choses à mettre en place, ce qui fait que nous, on perdait des heures d'expérimentation, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, même si c'était un peu avant, on avait monté un cursus qu'on appelait Alternatibac, justement, pour des jeunes qui n'étaient pas du tout pas du tout prêts à préparer le diplôme, et puis pas envie de ça non plus. Donc à partir de là, quel type d'alternative on peut proposer
pour les nourrir au même titre que que ceux qui préparent le bac, c'est-à-dire que se saisir des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire.
Bah, je disais toujours, le bac, c'est pas une fin en soi, mais quand même, enfin, à un moment, si tu passes pas le bac, faut quand même aller voir ce qui se passe ailleurs. Mmh. Et puis, ce truc fondamental aussi d'apprendre à faire avec l'autre, puis d'avoir envie surtout, parce qu'il y en a qui viennent et qui n'ont plus du tout envie de rien, quoi. Ce qui se comprend, hein, parce que c'est vrai que l'école, là, c'est en fonction de là où tu es issu, tu peux être bousillé en deux secondes, quoi.
Ouais, c'est une machine à broyer, c'est clair, ça dure depuis le toujours, en fait, toujours.
Parmi les changements qu'évoquait Debo, moi, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait important, c'est que même si le bac a toujours été un peu quelque chose de pesant, et le fait qu'au LAP, on était un endroit où on pouvait le préparer sans quasiment mettre de notes, enfin, c'était le projet. Et c'est-à-dire que, au moins, jusqu'à quasiment les 3 années de préparation du bac, on travaillait, on apprenait des choses et tout ça, mais il n'y avait pas du tout cette confrontation directe à t'as telle note et
la
tout ça. L'évaluation se faisait complètement autrement, et ça, c'est quelque chose qui était fondamental. Déjà un peu avant la réforme du lycée, il y a eu une pression pour mettre de plus en plus de notes à travers des épreuves ponctuelles qui ont été réintroduites dans les années 2000, mais bon, ça restait ponctuel. Par exemple, les E3C, les TPE, voilà. Ouais. TPE, les E3C, c'était justement ce qui devait arriver, mais qui a été largement balayé par une opposition assez forte juste avant la période du Covid. Mais là, c'est vrai que le nouveau bac et surtout Parcoursup ont quasiment imposé à ce qu'il y ait des notes partout. Et donc la pression devenait quasiment incontournable. Et ça, bon, c'est la phase d'avant, c'était quelque chose de merveilleux de pouvoir être à l'école sans avoir cette pression du couperet permanent, quoi.
Non seulement il y a ça, puis en plus on leur demandait de faire des choix plus tôt qu'avant, et donc tu te retrouves plus vite en phase d'examen. Enfin, donc c'est une pression qui est... Alors que moi, j'ai toujours pensé l'inverse, en me disant, mais purée, laissons le temps de réfléchir un peu. Moi, je trouve qu'on demande aux jeunes de faire des choix beaucoup trop tôt. Et là, bah, ça balaye aussi, hein, en imposant ce système.
Puis faire quel choix, surtout faire.
Mais c'est ça. Puis pour...
Est-ce qu'on est en état de faire des choix au moment où on leur impose? Puis c'est personne par personne que ça se construit. Certains à 16-17 ans, par exemple, ont déjà des idées claires un peu sur c'est d'autres à 18-19 ans, ils savent toujours pas. Donc, c'est pas...
Alors qu'on leur demande, parce qu'on parlait de Parcoursup, mais avant Parcoursup, il y a AffleNet. Quel truc, voilà. Truc d'affectation sur les lycées. C'est donc, ils ont à peine 15 ans. Et déjà, il y a un enjeu délirant parce que... Il y a certains lycées où il y a des jeunes, puisque c'est arrivé là, je crois, il y a 10 jours, les résultats des affectations, il y a des jeunes qui s'effondrent en pleurs en fonction du résultat qu'ils ont. Enfin, j'imagine, à 15 ans, t'as des choix déjà dont on t'a fait comprendre que c'est des choix où d'un côté tu vas réussir ta vie, de l'autre côté tu vas la rater. Enfin, à quel point peut y avoir une pression aussi violente
C'est compatible avec le programme du Front National. C'est une sélection naturelle.
C'est ça.
Très naturelle.
Ah oui, puisque de toute façon, pour ceux qui n'auront pas été du bon côté, après, il y aura le petit tour par l'armée qui va permettre de régler le problème.
Et le travail,
voilà.
Petite musique ?
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Qui revendique, qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Qui revendique et qui proteste.
complète fusion. Je divise les manifestations, je divise la collaboration. Ne jamais je ne conteste, ni revendique, ni de proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste.
Vous venez d'entendre Jacques Dutronc qui interprétait l'opportuniste dans l'émission Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4. Une émission à laquelle participent Pascal, Déborah et Eric à l'animation, à qui je rends l'antenne.
Ouais, on dissertait très agréablement et d'une manière très, très subtile sur l'opportunisme.
Moi, je pensais que c'était Ciotti, effectivement. mais c'est le premier nom qui m'est venu, mais j'en aurais pas mal d'autres.
Mais voilà, bon, d'une manière générale, on dédie cette chanson à tout le corps politicien. Voilà. Se sont tous reconnus.
Ah ben, ouais.
Il y en a là, très clairement depuis hier qui peuvent se reconnaître bien, bien clairement. Enfin, moi, j'hallucine avec quelle facilité toutes ces personnes qui se revendiquent du gaullisme disent que bah, finalement, on est obligé de reconnaître que 30% c'est un fait important et qu'il faut arrêter la diabolisation.
Et que c'est démocratique.
Oui, que c'est démocratique et que voilà, si on croit en les institutions, eh ben, on est obligé de laisser le Rassemblement National au pouvoir et qu'il y a vraiment... Vraiment, pourquoi s'opposer au Rassemblement National? Et eux, leur épouvantail, c'est l'extrême gauche. On revient sur ce qui était dit tout à l'heure. Et donc, tout ce qui était dit il y a une dizaine d'années, comme quoi il y avait des valeurs républicaines et que c'était ça le grand front uni, bah là, ils ont complètement changé de discours, mais de manière. Comme si on n'avait absolument pas de mémoire. Parce qu'il y a ceux très clairement comme Ciotti qu'on rejoint, mais les autres, j'entendais les journalistes qui sont obligés de leur dire, mais pourquoi vous faites pas comme Ciotti? Mais c'est avec des propos de banalisation du Rassemblement National et de refus d'appeler à contrer leur ascension au pouvoir, ce qui est assez délirante. Donc oui, il y en a qui commencent à bien retourner leur veste. Je ne sais pas où est-ce qu'ils comptent espérer aller bouffer, dans quel gouvernement ils comptent intégrer, et quel... Mais et ça va jusque il y a pas que les républicains, hein, on a entendu aussi tous ceux du côté d'Horizon qui mettent dos à dos LFI et le Rassemblement National.
Mais je crois que pour Ciotti, je reprends ce que disait Déborah tout à l'heure, hein, avec la détresse du secteur psychiatrique. Et ben voilà, il y en a un qui s'est échappé et le mec il fait n'importe quoi. Et plus de médecins, plus de soins. Ça nous aura évité bien des déboires quand même.
Mais non, quand même une prime pour être obligé de s'occuper de Ciotti quand t'es médecin. Parce que...
il s'est même enfermé lui-même dans son bureau. Je veux dire, il y a une demande.
Il prépare le chaos, ouais.
Non, mais c'est vrai que alors je sais pas si on réalise quand on regarde ça, enfin un pas de côté, c'est vrai que ça peut être effrayant, mais en même temps j'aperçois que c'est des dingues. Comment laisser le pouvoir à des dingues? C'est ça la démocratie, faut arrêter tout de suite. T'en penses quoi, toi, Manon?
La démocratie bourgeoise et libérale, oui, c'est ça,
ben oui.
Voilà, les fous sont lâchés.
C'est terrible, un pouvoir de fou.
On peut le dire.
Voilà, oui, c'est... Ils sont prêts à aller jusqu'au bout, quoi. C'est un truc, tout en ayant dit le contraire.
Oui, et c'est les mêmes qui ont détricoté le LAP.
Par exemple.
On disait en début d'émission, c'est qu'en fait, c'est petit à petit, on s'aperçoit que depuis 20, 25, ouais, 30, 40 ans, oui, ça se montre comme un Lego un peu qui a l'air au départ pas très habile ou pas, on ne voit pas trop où il veut en venir, puis rapidement on est il y a des indices comme ça, on disait avec Fabrice, 2002 c'était une une rupture, hein. Quand on a le premier appel à barrer la route
faire
au,
le
au front.
Au Front National.
Voilà. Ouais. Par les mêmes donc républicains
oui. Ah bah oui.
qui, bien sûr. Ami de Chirac qui appelait à aller voter pour faire barrage et avec Chirac qui disait que bien évidemment on ne discute pas avec le Front National parce qu'il y a d'un côté les instances républicaines et de l'autre les personnes qui ne les respectent pas et donc il faut tout faire pour leur faire barrage. Et
bien, après il y a une incohérence parce que si on laisse se présenter le Front National, si on a laissé se présenter le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, c'est que en fin de compte ils sont pas si terribles que ça. Ils l'ont oui, été, ça a été, c'est effectivement ça a été un épouvantail instrumentalisé par Mitterrand, pardon, semble-t-il, pour diviser la droite, comme tu le rappelais tout à l'heure, Pascal. Mais en fin de compte, ouais, c'est un parti comme un autre. T'es un petit peu plus sévère, un petit peu plus raciste, un petit peu plus. Mais bon, en fin de compte. Donc du coup, oui. Ouais.
Ça, c'est... Oui, il est complètement.
Ouais, sinon, il l'aurait dissous, hein, comme les soulèvements de la terre ou un truc comme ça.
Voilà. Je sais pas, ça a été annulé au dernier moment.
Ouais, mais ouais, parce que bah, juste avant, ça, la justice, c'est pareil. On va intervenir là-dessus, nous les gars du Rassemblement. Et on va te foutre tout ça en l'air.
Tu m'étonnes.
Là, bah, un petit peu comme le sait. J'entendais encore un mec de syndicat Alliance hein, qui disait c'est le problème de la police, c'est la justice. Eh bah, ben oui, pas de justice, c'est que de la police.
Voilà, c'est plus simple. Veut. On règle ça, voilà. Mais, règle ça de manière mais, plus expéditive.
Ah bah oui.
C'est trop
condamné.
Long. La justice, c'est trop long.
C'est trop long. Mais bon, et quand j'ai dit nous, les gars du Rassemblement, j'en fais pas partie, hein, je plaisante. Hein.
On s'est pas trompé de radio.
C'est pas que les auditeurs,
des fois, on se trompe de département. Donc, Alors, est-ce que tu disais, est-ce que c'est les mêmes qui ont démantelé le LAP et qui font le marche-pied au Rassemblement
c'est
national
le même état d'esprit, j'entends, hein, pas forcément les mêmes personnes ou les. Voilà, mais
oui,
c'est le même état d'esprit.
Clairement, cette vague de fond dont on parlait. Mais j'ai pas la réponse hein, sur tout ce qui. Parce que ça demande une analyse assez complexe sur pourquoi il y a cette vague de fond aussi cohérente à plein de points de vue.
Moi, je dirais qu'elle est. Alors, Pascal, je dirais qu'elle est cohérente simplement de prime abord. Mais derrière, en fait, c'est.
Je suis pas sûr que tout soit bien réfléchi
ouais,
non plus.
Exactement. C'est le briquet de broc, hein. C'est
non,
comme...
mais moi, quand je dis cohérence, c'est-à-dire qu'on va dans la même direction. À vrai, ça ne veut pas dire que c'est bien pensé, que ça
ouais.
sera efficace, et que. Encore moins que ça sera dans notre intérêt. Mais la direction, il y a quand même une direction qui n'a pas beaucoup infléchi. Mmh.
Moi, ça fait un bout de temps que.
De niveau global et.
Tout ce qui est de l'ordre du prendre soin, on s'en fiche complètement, quoi.
Et puis, voilà.
C'est pas nouveau.
Enfin, tout ce qu'on a dit là, tout à l'heure en début d'émission, le pointer des boucs émissaires, dire que c'est l'ordre qui va, l'ordre et l'autoritarisme qui vont régler les questions sociales. Enfin, voilà, tout ça, c'est quelque chose effectivement et une direction qui est clairement prise. Quoi.
Et en même temps, c'est pas défini. Moi, c'est pour écouter les représentants de comme ça à la volée, hein, je sais pas non plus arriver au poste, mais rien n'est défini, c'est-à-dire que l'ordre, qu'est-ce que c'est? Mais fondamentalement, on n'est pas hostile à un ordre.
Mais même sous Macron, rien n'était défini.
Mais bien sûr,
tout
on
était
est
expérimental.
Bien sûr, c'est ça.
Il
oui.
faut qu'on fasse ça. Bon, bah, oui. Comment on va faire?
D'abord, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas non plus. Il n'y a pas de définition. C'est-à-dire que toute démarche un peu, je veux dire, scientifique, constructive et qui, un peu rationnelle. On part d'une définition. Je dis voilà, on borde le sujet. Alors, après, on peut le faire évoluer. Mais on part d'une idée, on la définit et puis ensuite on construit à partir de ça et on la fait évoluer.
On là, les entend pas beaucoup les scientifiques.
Les scientifiques, oui. Mais ça peut être une démarche aussi qui nous appartient, dont on s'empare, nous, travailleurs, enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça soit l'apanage des scientifiques.
Non,
tu vois, mais il n'y a rien qui est défini. On parle d'ordre, on parle d'organiser l'école, mais.
Par qui?
Par qui? Comment? Alors, j'ai des grands. Des, là, on est vraiment, tu disais tout à l'heure, c'est que c'est du populisme et de la démagogie. C'est-à-dire qu'on nourrit une espèce de fantasme collectif ou individuel, un peu des deux, quoi, sur, et qui ratisse large. Hein, parce qu'il y a ceux qui sont pas contents parce qu'ils vivent avec le, en dessous des minima sociaux. Il y a ceux qui sont vieux et puis qui ont une petite retraite, qui arrivent pas à s'en sortir. Il y a ceux qui n'ont pas de quoi payer l'essence pour aller bosser. Il y a ceux qui vivent dans une cité au milieu d'étrangers qui sont dans la même situation sociale qu'eux. Et qu'il n'y a pas de différence, on est travailleurs. Je veux dire, après... mais on va leur dire, bah oui, mais si tu ne gagnes pas beaucoup, c'est parce que, regarde, les autres te prennent ton boulot et... exact. Ben oui, mais ça procède de la même non-définition. Il n'y a pas d'analyse profonde. Et, l'école telle qu'on la... On se la projette, on ne permet pas de s'arrêter et de dire et de faire réfléchir, collectivement les gamins. Enfin, les gamins, puis après, les étudiants.
Oui, la somme.
Même ceux qui sont sur le terrain, les profs, on leur demande jamais leur avis. Hein. C'est pas eux qui décident de comment...
Là, dans le programme, on va leur demander leur avis, puisque c'est tout le programme, tout le pouvoir au chef. Et le chef, tu déclines, c'est soit le flic, soit l'institut. Enfin, on va pas lui demander son avis sur la politique, mais par contre, on va respecter son autorité.
Et le pouvoir au chef, Michel, ok, il exerce un pouvoir, mais si ça, c'est pareil, c'est quoi, il obéit à des ordres, et il répercute des ordres, ou il est... On ne sait pas.
Non, mais c'est
ça
pas
peut être l'arbitraire.
Oui, bah bien sûr que c'est l'arbitraire. C'est clairement l'arbitraire. Mais parce que c'est la question de la figure. Là, on est effectivement sur des symboles et
le symbole.
une idéologie avant tout, hein, qui est clairement posée, quoi. Et donc ouais, là, pourquoi il y a eu ça aussi alors que. Il est même possible que les mêmes personnes qui ont voulu attaquer le LAP soient des personnes qui votent contre le Rassemblement National. C'est-à-dire que c'est ça qui est dans le délire, ça peut être tout à fait ça. Ouais.
Ça peut paraître paradoxal.
Ouais, mais pour autant, ça, ce qui montre à quel point cette attaque du projet alternatif est répandue. Quoi.
Trop de liberté.
Ouais, là, il y avait vraiment un truc d'en finir avec les espaces de liberté, d'en finir avec...
Les esprits critiques.
L'esprit critique, oui. Les courants pédagogiques, enfin, c'est vraiment...
Ce qui sort du rang avec l'uniforme, en fait. Non, mais très clairement, c'est un peu une image peut-être facile, mais un espace de réflexion,
de débat,
d'action collective, de prendre en main comment on entend l'école, comment on peut vivre ensemble l'école, l'apprentissage de manière générale.
C'est trop dangereux.
Ça fait des individus qui pensent et qui apprennent à penser, qui apprennent à critiquer, qui apprennent à remettre à faire un pas de côté, parce que de temps en temps, il faut se regarder aussi.
Alors que ça devrait être comme ça partout.
Et puis, ça prend du temps.
Mais bien sûr.
Ah oui.
Bah oui. Parce bien que sûr. Ça prend du temps, parce que chacun nourrit un petit peu.
C'est efficace, mais pas tout de suite.
Ouais.
Et une organisation du groupe qui n'est pas du tout celle que, si on revient sur l'école. Dans un collectif à 35 en permanence, il n'y a pas d'opposition à être en grand groupe à des membres. Mais à des moments, si tu veux discuter, partager, et tout ça, il faut aussi des espaces avec des plus petits groupes.
Bien sûr.
Et ça, c'est essentiel. Et donc, effectivement, quand tu es 24 ou 28 heures par semaine à 35, et qu'en plus, il y a une pression pour apprendre des savoirs, bah, tu n'as pas le temps de discuter, de creuser, de remettre en question. C'est un projet qui est complètement autre, quoi.
Donc, c'était... Des nouvelles, il y avait quatre établissements à l'origine en 82, 83, dans ces années-là, quatre établissements, donc on a parlé, vous avez évoqué celui de Saint-Nazaire, bon, il y a le LAP parisien, et quels étaient les deux autres? Il me semble qu'il y en avait un qui était...
Il y a le CEPMO sur l'île d'Oléron.
Voilà, c'est ça, oui, qui est un autre modèle dont on avait un petit peu différent, qu'on a évoqué il y a 15 jours.
La dernière fois,
Et le quatrième, je me souviens plus.
C'est le Clay à Hérouville-Saint-Clair.
En Normandie.
Ouais, juste à côté des plages du débarquement. En fait, les quatre ont eu le point de départ, c'est le puisque tout à l'heure j'évoquais à Thor Savary sur la question de du projet de Vaquet. Mmh. Savary leur avait dit vous faites un peu comme vous voulez, vous avez carte blanche. Il se trouve que Saint-Nazaire, qui a été le premier à ouvrir, a eu un fonctionnement qui n'est pas exactement similaire à celui du lycée autogéré de Paris, mais qui avait en commun le fait que les élèves participent de manière égalitaire en termes de droits avec les profs, comme on dit à Paris, ou les meux à Saint-Nazaire. Et donc il y a une vraie dimension politique autogestionnaire. C'est pour ça qu'il y avait une très grande proximité avec Saint-Nazaire. Les deux autres ont mis en place des pédagogies alternatives et des façons de fonctionner qui sont intéressantes. Mais le fait de casser complètement la hiérarchie traditionnelle dans l'école, c'est pas le cas. Mmh. C'est pas le cas. À Oléron, il y a eu des interrogations. À des moments, ça a été beaucoup discuté, même y compris avec des groupes de personnes qui voulaient faire évoluer vers un système plus autogéré ou en tout cas plus horizontal. Ça a été rejeté par une autre partie. Alors qu'à Hérouville-Saint-Clair, pas du tout. Hein, ce qu'on ne s'attend pas à voir dans ces établissements expérimentaux, bah, Hérouville-Saint-Clair, il y a une salle des profs, il y a des endroits où les élèves ne peuvent pas rentrer parce que c'est des domaines réservés en termes de, par exemple, gestion de la cantine. Voilà, il y a une hiérarchie au sein de l'équipe avec quelqu'un qui a un rôle hiérarchique, même s'il est, un peu différent. Mais donc, par contre, les trois autres, tout le monde a eu des difficultés à des moments donnés. Alors, les deux plus visés, c'est Saint-Nazaire qui était vraiment le plus visé à certains moments, mais qui est là en ce moment et heureusement un petit peu épargné. Enfin, quand on voit le carnage du côté du Lap, heureusement. Ouais. Mmh. Le Hérouville-Saint-Clair, ils ont surtout eu des problèmes de moyens, des suppressions de moyens, mais ça comme partout dans l'éducation nationale. Et le CEPMO ont été moins ciblés. Alors, il y a quand même une question sur les locaux. Ils ont dû déménager. Et ça fait maintenant 6-7 ans qu'ils sont dans un endroit. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'ils ne sont pas les seuls sur un espace. Il y a aussi un CAT et différentes autres structures sociales qui fonctionnent juste à côté. Ça peut donner des échanges. Et ils sont dans un cadre assez sympathique parce qu'ils sont juste
front
sur
de mer.
front de mer à l'île de Léron. Voilà, mais bon, ça c'est pour les petites anecdotes.
C'est vrai que ça permet de s'épanouir quand même. Quand
ouais. Hein. Voilà, et c'est aussi un lieu qui avait été celui où avait été expérimenté l'école Bonaventure, puisqu'on en a reparlé il y a quelques temps, puisqu'il y a un historien qui s'est intéressé aux archives de Bonaventure et aux éditions du Monde Libertaire. Il y a un livre qui est sorti là, il y a quelques semaines ou quelques mois sur cette expérience bien, bien singulière et bien sympa d'une école libertaire sur l'île d'Oléron du milieu des années 90, enfin début des années 90, je crois 93-94 jusqu'en 2006-2007 si mes souvenirs sont bons, enfin, une bonne dizaine d'années. Donc un bouquin qui raconte cette histoire qui est aussi malheureusement au passé.
Est-ce que c'est... Alors, au passé, très bien, mais est-ce que pour autant, il n'y a pas une... Vous, avec l'expérience que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de reconduire un projet? Ou est-ce que...
Cet espoir, il est là, mais comme voilà. Il y a l'idée de reconduire tout autre chose au niveau
parce que c'est
global.
C'est de la résistance. Enfin, je vais y avoir un moment donné.
Je sais que j'ai évoqué l'idée, mais là, c'est dans quel contexte? Oui. Voilà. Mmh. Et à quoi ressemble notre pays aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver les moyens de monter ce type de projet, ce type d'aventure, comme dit Pascal? Enfin, déjà, on est beaucoup à être épuisé, je pense.
Ah, c'est plus facile d'obéir aux ordres et puis d'exécuter sans trop penser.
Cela, on est passé par des phases extrêmement compliquées, là. C'est violent, en fait. Ouais. Violent, fatigant.
Et c'est pas fini, la violence.
Et c'est pas fini, ouais. Voilà, moi, par exemple, je sais pas si j'ai envie de continuer à travailler pour l'éducation nationale. J'ai jamais enseigné ailleurs qu'au LAP. C'est pas un métier facile, mais qui est plein de beauté, parce que oui, on apprend, on découvre, il y a un vrai rapport collectif, il y a un vrai rapport humain. Mais là, aujourd'hui, on me demande ce que tu veux faire, je dis, mais je sais pas.
Tu veux une place d'hôtesse de caisse
Ah, des métiers d'avenir.
Ah oui, bah, même pas, même pas.
Bah ouais, avec des rayons bleu, blanc, rouge partout.
C'est la beauté.
Ça va devenir sympa, les monoprix.
Pour moi, la beauté de l'enseignement dans une structure comme le lycée, c'est justement le côté collectif. Le côté où on se donne les moyens, on se donne le temps. Et ça, c'est pas du tout, du tout au goût du jour. Pas du tout.
Non, mais l'espoir, il est dans le fait qu'on n'a pas le choix. On est obligé de rentrer en résistance totale, planétaire. Est forte contre tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, à partir du moment où on va être en résistance globale, bah, allez, si on veut être un petit peu optimiste, tout devient possible. On peut tout renverser.
Tout redevient possible.
Ouais. Enfin, oui, parce que là, quand même un avenir très, très sombre qui est plus qu'annoncé, qui se dessine. Et donc, il va falloir l'empêcher. C'est pas possible de laisser de vivre dans un monde pareil. Donc, je sais pas quelle forme vont prendre nos armes, mais il va falloir qu'on se batte.
C'est clair. Donc, il faut reprendre des forces aussi.
Un autre monde, bien sûr, qu'on a des idées d'autres mondes et d'une autre école, et de recréer des espaces comme celui qui a été le LAP. Et, bien sûr.
Ah bah oui, ça serait... Il en faudra de toute façon.
Bah oui. C'est l'heure de se quitter.
Bah ça va pas être, ça va bientôt être l'heure, oui, il est 58.
Et se disait qu'il n'y avait pas de rendez-vous, non c'est...
On n'a pas de rendez-vous, mais après, il y a l'émission de Jean-Manuel, c'est Les Muses s'amusent.
Les Muses s'amusent. Les Muses s'amusent. Incidemment, sur un bouquin dont le titre est Changer la vie.
Ah, ben voilà, bon, on est d'accord.
Il n'est pas exactement d'actualité.
Ah, mais si, au contraire.
Au contraire.
Au contraire, il est très d'actualité.
S'il le devient.
C'est ça.
Ça dépend dans quel sens tu veux changer la vie. Tu vois,
t'écouteras l'émission, tu vois. Enfin, c'est un bouquin de Jean Guéhenno.
Oui.
Surprenant. Mmh. Et c'est très, très beau. Et en fait, c'est son autobiographie. Parce que fils de paysan. Et c'est plein d'optimisme malgré tout pour quelqu'un qui était né dans les années un peu noires de la fin du siècle. Pas mal.
Mais tu vas voir comment ils vont te la changer ta vie.
Tiens, voilà, vache.
Attends la semaine prochaine.
Puis déjà fini la retraite, tu vas retourner au boulot.
Au boulot. Allez hop, t'en prends pour 20 ans.
Voilà. Bon bah je vais faire une petite conclusion rapide ou pas, parce que j'ai le générique à lancer,
oui.
Mais.
Allez.
Vous êtes optimistes ?
Bien sûr. Pascal, tous les voyants de l'optimisme sont là. Je ne vois pas comment on pourrait...
Rien ajouter, mais je vois leur tête. Hein.
Non, pour le LAP, c'est foutu. Pour la société, c'est foutu. Donc, allons-y, on va se battre. Non, c'est bien sûr que c'est jamais foutu. C'est pas parce que tout était effectivement très, très sombre, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir de l'optimisme et de tout ce qui a été possible par le collectif reste possible par le collectif et l'émancipation reste l'avenir du monde.
Je peux pas dire mieux.
C'est parfait. Quand même. Bon, je vous remercie, Déborah, Pascal, d'être passé pour nous parler du LAP et puis
d'actualité.
D'actualité brûlante. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour une émission plus culturelle.
Peut-être.
Littéraire.
La radio libertaire n'est pas interdite d'ici là.
Oui. Arrête, Pascal.
Et puis, on va vous laisser avec les Muses s'amusent. Donc, à dans 15 jours.
Merci.
Si, j'y crois.
Ils font plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Les Muses s'amusent. Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, nous allons parler de l'excellent livre de Jean Guéhenno, « Changer la vie, mon enfance et ma jeunesse ». C'est un livre dont j'ignorais jusqu'à l'existence, et je dois confesser que je n'avais même jamais rien lu de Jean Guéhenno. Et puis, il y a quelques jours, en me promenant sur les quais de la Seine et en farfouillant dans les boîtes des bouquinistes, je tombe sur ce livre dans la collection Les Cahiers Rouges de Grasset. Et ce titre, Changer la vie, m'a évidemment surpris. Parce que pour moi, les mots changer la vie, c'est d'abord, vu ma génération, quelque chose que le Parti Socialiste disait beaucoup. Je feuillette le livre. Je m'aperçois que c'est probablement très intéressant et très bien écrit, je l'achète, je le lis, et très rapidement, je m'aperçois qu'il s'agit d'un livre absolument magnifique. Ce livre raconte donc l'enfance et la jeunesse de Jean Guéhenno, quelqu'un qui est né fils d'ouvrier à Fougères, ville bretonne, qui devient par la suite prof en Cagne. Les Cagnes, comme vous le savez, ce sont les classes préparatoires à Normalsup, qui va surtout devenir un grand écrivain, qui sera même membre de l'Académie française, mais surtout pour nous ce soir, auteur